Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, nous voici dans cette deuxième partie de Restons Courtois. Nous venons d'accueillir pendant une heure Nicolas Dupont-Aignan. Vous pourrez retrouver cette séquence évidemment sur YouTube, en rediffusion sur les ondes FM et puis en podcast. Donc comme je le disais, avec cette petite contrainte technique que l'entretien doit durer une heure pile et pas une de plus, pas une de moins. Je tenais également à remercier tous les auditeurs qui nous ont aidés à la suite de mes appels du mois de juillet pour passer l'été, qui est toujours une période, encore une fois, vraiment difficile. Cet été a été peut-être un peu plus difficile que d'habitude, mais grâce à vous, bah voilà, nous avons pu partiellement surmonter le creux. Pour juillet, en tout cas, c'est sûr. Pour août, je dois dire que je n'ai pas encore les chiffres, donc je vous tiendrai informé. J'espère que ça sera le cas, j'espère qu'il y aura une mobilisation. En tout cas, voilà, je tenais à remercier, par exemple, cette auditrice de la Celles-les-Bordes dans les Yvelines qui a envoyé 100 euros et qui nous disait « Bonjour à tous, merci pour Ligne Droite et les émissions conventionnelles. Respectueuses salutations, chère madame, un grand merci à vous. » Richard, ben je vais continuer.
Richard va y aller. Un auditeur de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis envoie 50 euros. Je vous adresse aujourd'hui ma participation pour vous soutenir en été, période où les gens ont tendance à oublier les petits soucis, et notamment celui de Radio Courtoisie, qui se bat comme un lion pour perdurer dans cet océan de requins. Bon courage à vous.
Eh ben, un immense merci, cher monsieur, parce qu'effectivement, les gens, et c'est bien normal, d'ailleurs, tout le monde oublie un peu ses soucis de temps en temps, il faut quand même vivre, mais nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ben, évidemment, si nous avons moins de moyens, nous sommes soudain en danger. Heureusement, il y a des gens qui pensent à nous, comme cette auditrice également de Gré, alors je ne sais pas si on dit Grets ou Gré, Gré Arminvilliers en Seine-et-Marne, qui a envoyé 30 euros en nous disant « Je vous envoie tous les ans au mois de décembre ma cotisation pour l'année à venir, mais cette année, comme les années précédentes, je vous envoie un petit complément pour vous aider à passer l'été. J'aime toujours vos émissions et vos rediffusions qui nous remettent dans le contexte d'une époque de quelques mois ou quelques années en arrière. J'apprécie également vos émissions du lundi matin sur la langue française et en ce qui me concerne, je les aimerais plus nombreuses. » Avec mes remerciements pour toutes les informations que vous nous apportez. C'est très riche, ça. Sur la langue française, oui, effectivement, on essaye, évidemment, de multiplier les interventions. On pourra y penser, en faire un peu plus.
Un auditeur de Paris, dans le 11e arrondissement, envoie 50 euros. « Je ne suis plus jeune, je suis veuf, à la retraite, avec une santé précaire. Je prie pour vous. Dans la mesure du possible, mettez un maximum d'humour dans vos émissions. L'humour est très efficace, les temps sont sinistres et le seront de plus en plus. Il y a des jeunes pleins de connaissances sur des sujets très variés que les portes de Radio Courtoisie s'ouvrent pour eux. »
Eh ben, merci déjà de votre soutien. Et puis, eh ben, on essaye. Nous essayons, je pense, d'être vaguement drôles, ou en tout cas, pas totalement sinistres. Même des fois involontairement, quand on dit des bêtises. Et les jeunes, bah, je trouve que bon, voilà, ça se rajeunit quand même pas mal. Et puis, il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi le talent. Je parle pour nous. Suivez notre regard. On remercie également cette auditrice de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 100 euros, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe de Radio Courtoisie, que ce petit don puisse vous aider à continuer de votre belle mission encore et encore. » Et bah, soyez certaine, chère auditrice, chère madame, que cela nous aide prodigieusement.
Et une auditrice de Villejuif dans le Val-de-Marne envoie 90 euros. À réception de votre dernier mail, je me prends à craindre le pire pour votre radio, qui est aussi ma préférée depuis 4 ans. Je ne voudrais pas en être privée tant elle m'apporte en termes de culture, mais aussi de réconfort moral. Merci à tous pour vos belles émissions et notamment à Madame Anne Collin, dont la voix si douce m'apaise.
Eh bien écoutez, nous transmettrons le message à Anne Collin.
Tout à fait, tout de suite.
Absolument. Et ben, merci en tout cas, merci chère madame. Et enfin, on remercie un couple d'auditeurs de Versailles dans les Yvelines qui envoient 50 euros. Depuis longtemps, nous voulions nous abonner à Radio Courtoisie et vous remercier des belles émissions que vous diffusez. Voici donc un chèque de 50 euros. Nous espérons ainsi pouvoir profiter des émissions, même après leur diffusion. Avec tous nos remerciements, ben, c'est nous qui vous remercions et doublement, chère madame et cher monsieur. Et ben, effectivement, quand on cotise à Radio Courtoisie, on peut accéder à tout un tas d'émissions de trésors d'archives que l'on rediffuse également parfois en été, quand ben, la quasi-intégralité, hein, 90-95% des émissions sont produites par des bénévoles et qui en août ben, prennent un repos que l'on peut juger quand même bien mérité et on en profite. Voilà, pour faire bénéficier les auditeurs d'archives qui sont souvent tout à fait passionnantes. Alors, on en revient maintenant à nos sujets du jour. Marine Le Pen au MEDEF, et puis le départ de son conseiller économique, François Durvie. Est-ce que cela va changer le monde? Est-ce que cela va changer les choses? Et donc, à l'occasion du premier grand débat présidentiel qui avait été organisé par le MEDEF à Roland-Garros, nous avons vu un sondage, d'ailleurs, au Doxa, pour le Figaro, qui testait la crédibilité économique de 8 candidats, et Marine Le Pen est arrivée en tête dans tous les domaines, simplement concurrencée par Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre. Et la question, toutefois, que je me suis posée, alors après peut-être que j'ai un esprit mal placé, mais c'est est-ce que le MEDEF est un arbitre pertinent pour distribuer les bons points, les mauvais points? Et même, et ça c'est ma question, fallait-il jouer le jeu pour Marine Le Pen de se présenter au risque de lui reconnaître une crédibilité au MEDEF? Et surtout, est-ce que autant un président ne devrait pas dire ça, est-ce qu'un candidat devrait se laisser imposer son agenda par des structures quelles qu'elles soient, et simplement ne pas dire bah, « c'est moi qui décide quand je vais parler d'économie ». Alors, je crois que Xavier Van Lierde a un avis très arrêté là-dessus.
Oui, enfin, j'étais un petit peu dépité de constater qu'à l'applaudimètre, ce sont Gabriel Attal et Édouard Philippe qui ont recueilli... enfin, qui ont visiblement le plus plu aux adhérents du MEDEF, mais je me souviens que le MEDEF ne représente pas l'intégralité du patronat français. Bon, enfin, tout de même. Alors, pour répondre à votre question, je pense que Marine Le Pen, bien sûr, comme tous les autres candidats, ont bien fait d'aller à ce débat, que d'autres auraient pu d'ailleurs être invités. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir à Canossa et considérer qu'ils sont les arbitres des élégances. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être un peu viril avec ces gens-là. Je ne pense pas que, d'ailleurs, que Marine Le Pen ait été... je pense qu'elle a défendu ses positions de façon très correcte et sans courber les chines. En fait, j'aimerais toutefois rappeler deux choses. C'est que le patronat d'aujourd'hui, ce n'est plus le patronat d'antan. On a un peu tendance à considérer que le patronat français ressemble encore à celui des Trente Glorieuses, que c'est un patronat d'une économie nationale, productiviste, manufacturière, etc. Et c'est plus du tout le cas. Et ça explique probablement l'accueil quand même relativement froid qui lui était réservé, ou chaleureux qui était réservé aux responsables quand même de la situation, ce qui est quand même assez, assez piquant. Et je crois que pour résumer la situation, je vais emprunter deux notions où on retrouve le même terme. On était face à une aristocratie stato-financière, l'expression d'Emmanuel Todd. Cela signifie que le patronat français, en réalité... est assez endogamique avec la haute fonction publique. On peut passer d'un cabinet ministériel à une banque, ou d'une banque à un cabinet ministériel, à la tête d'une entreprise, voire, comme on l'a vu avec Emmanuel Macron, à la tête de l'État. Ça, c'est le côté endogamique et qui fait que, finalement, le patronat français, pour une large part, et notamment le MEDEF, parle la langue du libéralisme et des marchés, mais en réalité garde le carnet d'adresse de l'État. En fait, il a les yeux quand même assez rivés à la commande publique. Il est même accro à la commande publique. Et souvent, il est même accro à la réglementation. Et on peut démultiplier les exemples. Je vais en prendre un au hasard. Le DPE n'a pas... Le DPE, donc, est obligé à faire des diagnostics sur les logements, n'a pas particulièrement déplu à la Fédération française du bâtiment. J'en veux pour preuve que la Fédération française du bâtiment a même mis en place une sorte de partenariat avec l'ADEME. Donc vous imaginez que quand Marine Le Pen ou d'autres peuvent arriver en disant « bah moi je vais supprimer toutes ces agences d'État qui ne servent à rien, qui ne font qu'emmerder les Français, tout simplifier », eh bien la plupart des Français et des libéraux se disent « chouette alors, j'espère qu'elle va être applaudie », mais pour toute la Fédération française du bâtiment qui pèse assez lourd dans le MEDEF, c'est une catastrophe. Mon Dieu, on nous enlève notre marché. C'est pour ça que cette aristocratie stato-financière, c'est pas que un niveau de diplôme et de compétences qui permettrait de passer de l'un à l'autre. Ça devient des relations un peu donnant-donnant, où il est possible de créer des marchés artificiels avec des réglementations. Et le combo, c'est quand, au-delà de la réglementation, on met une aide qui permet de rendre solvable ce bidule complètement artificiel. Et puis la deuxième expression... c'est celle de stato-consumérisme. Il faut pas se leurrer. L'économie française est devenue une économie essentiellement fondée non plus sur la production, mais la consommation. C'est d'ailleurs là tout le problème. Et dans ce cadre-là, alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que comme on produit de moins en moins, parce que les patrons absolument géniaux, parce que vous savez, aujourd'hui, ils ont beaucoup de morgues, ils expliquent ce qu'il faudrait faire, ils ont tout compris, ils savent mieux tout que les autres. Mais moi, je me souviens très très bien qu'il y a quelques décennies, les mêmes nous expliquaient avec la même morgue que l'avenir, c'était l'entreprise sans usine, qu'il fallait délocaliser, que la manufacture, c'était terminé, et qu'il fallait envoyer tout ça en Asie, et que ce serait bien mieux. Résultat, 30 ans plus tard, nous ne produisons plus, mais nous continuons à consommer quasiment autant qu'avant. Comment est-ce possible ? Mais par la dette, pardi. Donc c'est-à-dire que ces braves gens, en réalité, sont essentiellement, c'est-à-dire que les branches les plus représentées quand même dans l'économie française et aussi dans le MEDEF, ce sont des branches telles que la grande distribution. Il y a même un truc qui s'appelle Action Logement. Action Logement, c'est un bidule paritaire qui s'occupe des logements sociaux. Vous voyez, donc en fait, on a l'image d'un patronat capitaliste, productif, innovant, complètement séparé de la sphère publique. En réalité, c'est quand même c'est plutôt des gens qui arrivent à se placer à l'articulation du marché et de l'État et qui flèchent. Ils sont capables de flécher la dépense publique vers les secteurs qui les intéressent, c'est-à-dire généralement vers leurs propres entreprises et vers eux-mêmes. Autant dire que lorsqu'on parle de dette, une grande partie du patronat devrait quand même balayer devant sa porte et réaliser que... D'accord, ils sont contre les prélèvements, ils gueulent contre les prélèvements quand ils en sont victimes, mais ils sont aussi extrêmement nombreux à réclamer des aides, à réclamer des réglementations qui flèchent les dépenses et même des subventions directes, notamment la consommation. Parce que l'ensemble du système, c'est ça le statoconsumérisme, l'ensemble du système, l'ensemble du niveau de vie et du pouvoir d'achat et de la consommation qui fait fonctionner un certain nombre de ces entreprises, des entreprises non pas de production, mais de flux et de distribution qui sont tournées vers la consommation, profite à fond de ce système. C'est un peu paresseux et donc un peu facile de la jouer manager prométhéen
Si
on lui déliait les mains, résoudrait tous les problèmes. Ça ne correspond pas malheureusement à la réalité. Alors je ne généralise pas, il reste des entrepreneurs, il reste des gens qui innovent, des gens qui pensent que la création, d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé de fabrication est ce qui permet de s'enrichir et pas seulement des petits arrangements et des réglementations. Mais bon, les autres pèsent quand même visiblement très très lourd.
Alors, on l'a pas entendu parce que le petit Alexis est arrivé à la bourre pour la rentrée des classes. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Marine Le Pen au MEDEF?
J'avais pas le numéro de classe, en fait. J'étais perdu dans le préau. Désolé, je viens de trouver. Le MEDEF, oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xavier sur le fait qu'on est dans le capitalisme de connivence, c'est-à-dire on est dans le CAC 40 qui a besoin de l'État pour être une base à la fois sur la stabilité en matière fiscale, mais aussi sur les aides, aux entreprises, la façon dont tout ça doit tourner. On est loin des préoccupations sur la petite et moyenne entreprise, sur les entrepreneurs, sur les 99% en fait d'entrepreneurs qui font tourner l'économie et qui ne sont pas les boîtes du CAC 40. Et c'est bien le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que lors de ces universités d'été du MEDEF, on aborde des sujets assez lointain et on essaye de séduire le patronat de ces entreprises boursières et internationales plutôt que de parler aux petits patrons. Et je pense que si on avait le même événement tenu par la Confédération des petites et moyennes entreprises, on aurait peut-être un différent débat.
D'accord. Et alors, est-ce que selon vous, il fallait que Marine Le Pen se présente et joue le jeu ? Est-ce que le MEDEF est un arbitre pertinent ?
Oui, de toute façon, il fallait être sur le lieu du débat. Oui. Moi, je vois pas pourquoi ne pas y aller, évidemment. C'est important d'utiliser tous les tous les outils, surtout quand il est question de débat, parce que sinon ce qu'on voit du reste de la campagne est plutôt tragique, quoi. Donc toutes ces mises en scène un peu anachroniques, donc autant utiliser les lieux de qui sont mis à disposition pour le débat entre les candidats.
Alors, Xavier, en 30 secondes, et ensuite on donne la parole à Arthur de Vatrigan.
Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de patrons qui se pincent un peu le nez en disant « Marine Le Pen, oulala, elle n'est pas assez libérale, elle est encore un peu étatiste, etc. Bon, » il se trouve qu'il y a quand même deux candidats qui sont une ligne extrêmement libérale, de libération, contre l'excès de réglementation de prélèvement, c'est David Linard et Sarah Knafo. Ils ne les ont même pas invités. N'est-ce pas extrêmement révélateur de la façon dont il préfère jouer la connivence avec les sortants, Attal et Philippe, plutôt que de réellement promouvoir et mettre en avant les programmes libéraux. Voilà ce que je voulais souhaiter. Donc, tout ça cousu de fil blanc.
Arthur de Vatrigan.
Je partage complètement l'avis de Xavier. Évidemment que le principe, c'est la connivence, à tel point que c'est vrai.
Mais pas la connivence avec Marine Le Pen.
Non, la connivence entre ceux qui... si, en fait, la connivence avec ceux qui vont gouverner, potentiellement gouverner. Donc Marine Le Pen était là parce qu'elle est favorite. Si elle avait été à 5%, elle n'aurait pas été invitée. Et parce que, en effet, l'économie de consommation fait que vous êtes obligé aujourd'hui d'être en lien direct avec l'État, et à tel point que c'est vrai que Marine Tondelier et Raphaël Glucksmann ont été applaudis par les grands patrons lorsqu'ils ont dit qu'ils voulaient 2,5 millions d'immigrés pour le travail. 2,5 millions d'immigrés pour le travail, c'est pas pour du travail très qualifié. Donc voilà. Ensuite, ce débat est quand même, c'est toujours des bons débats. C'est-à-dire si les télévisions organisaient le débat comme le MEDEF, ça serait d'une meilleure tenue. Il y a pas d'insultes, il y a pas d'invectives. C'est globalement, alors il y a un peu de caricature, il y a un peu de tout ça, mais
les gens
savent se tenir. Et ce qui est assez sympathique à regarder, au-delà du fond qui m'intéressait peu parce qu'on voyait le théâtre en place. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu la connivence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on voit l'élection qui se dessine, c'est vous avez deux partis principaux. Vous avez d'un côté le Rassemblement National et la France Insoumise, qui sont les deux seuls partis qui n'ont pas gouverné. Et vous avez de l'autre côté tous les partis qui ont déjà gouverné.
Et qui ne sont pas en plus a priori favorables à la vision du MEDEF.
Oui, mais ça, la vision, enlever la vision du MEDEF. Ce qui est intéressant, c'est que c'est annoncé, ça annonce la couleur et le ton de la campagne. Et vous voyez, vous avez vu la connivence entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui défendaient l'un et l'autre le programme de l'autre en disant non, mais ils ont fait un vrai programme sérieux, non, il y a une vraie contre-proposition, non, c'est pas aussi caricatural que vous le dites. Jean-Luc Mélenchon disait ça à l'endroit de Marine Le Pen et Marine Le Pen disait ça à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. Mais parce que la situation aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est vous avez le Rassemblement National et la France Insoumise, qui sont les deux seuls partis jamais au pouvoir. Jusqu'à présent, les Français étaient plutôt sur le statu quo, on va pas à l'aventure. Les partis qu'on connaît pas, c'est pas très tentant. Sauf qu'aujourd'hui, vous écoutez les Français si on veut dégager tous les connards qui nous ont mis dans la mouise. Et vous avez en face, tous les connards, entre guillemets, que les Français décrivent, tous ceux qui ont été au pouvoir à un moment, Premier ministre, ministre, secrétaire d'État, donc de Glucksmann, sauf Glucksmann évidemment, mais Glucksmann a été au pouvoir idéologiquement. Et d'ailleurs, on se demande ce qu'il fait là, et lui aussi se demande ce qu'il fait là. Quand vous avez vu sa prestation au MEDEF, c'est assez inquiétant. J'ai toujours pas compris son score dans les sondages, mais enlevons Glucksmann, de Retailleau à Attal, à Philippe, à Tondelier, ce sont tous des gens qui ont été aux manettes. Et donc vous allez avoir cet affrontement-là pendant le premier tour. C'est ceux qui sont contre, ceux qui n'ont pas été au pouvoir, contre ceux qui ont été au pouvoir.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, vous aviez posé une question à propos du départ du conseiller économique.
On pourrait en parler,
ouais. Voilà.
François Durvie.
Alors, ce n'est pas un personnage publiquement très connu. Mais je pense que son départ a quand même un certain sens et d'un certain point de vue.
Faut peut-être rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qui est toujours d'ailleurs François Durvie, il n'est pas mort.
François Durvie.
Et qu'est-ce qu'il faisait auprès de Marine Le Pen ?
Il était conseiller spécial pour l'économie. Auprès de Jordan Bardella et indirectement de Marine Le Pen.
C'est d'abord Marine Le Pen et ensuite Jordan Bardella.
D'abord Marine Le Pen et ensuite Jordan Bardella. Et il apportait surtout. Je pense à la fois un carnet d'adresses et une aura d'une certaine réussite professionnelle. C'est un polytechnicien, investisseur qui a travaillé avec Sterrin, etc. Il apportait un élément de crédibilité. Alors, est-ce que c'est déterminant pour la campagne électorale ? Je ne sais pas. Par contre, le problème qui se posera à Marine Le Pen, si elle est élue présidente, ce sera... le contrôle de l'appareil d'État. Et est-ce qu'elle aura des ralliements suffisants dans l'appareil d'État pour prendre vraiment gouverner les choses ou non ? Et le ralliement de l'appareil d'État, il dépendra assez largement du degré de confiance que les gens qui pourraient se rallier feront à Marine Le Pen. Et le fait que très régulièrement, il y ait des purges et des épurations des gens quand même entre guillemets les plus capés n'est pas forcément
très,
très encourageant. Non, n'est pas forcément très encourageant pour des gens qui en 2027 pourraient se dire bah je me rallie avec le fait
avec une nuance Jean-Yves Le Gallou, quand même que si ce qui se dit est exact et ça semble exact. François Durville, donc, qui avait été celui qui avait formé Marine Le Pen après le débat désastreux contre Macron, qui l'avait aidé à préparer son futur débat, était quand même d'abord quelqu'un qui s'était mis au service de Marine Le Pen, et puis qui progressivement a glissé au service de Jordan Bardella, et qui le jour du 7 juillet, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne suivent pas peut-être ce qui se passe dans les coulisses politiques avec attention, le jour donc après le procès, enfin, le jour du procès, et dans l'après-midi qui suit le verdict, et qui permet à Marine Le Pen d'être candidate, eh bien, François Durville a dit manifestement, en tout cas, il ne l'a pas démenti, que il a conseillé à Jordan Bardella de descendre du bâtiment et de présenter lui-même sa candidature aux journalistes, ce que Bardella n'a pas fait. Et c'est une petite main qui était dans le bâtiment, qui a entendu ce conseil et qui est allé le
dire. Ah, c'est pas
dire.
Une petite main. C'est,
non, c'est la directrice de la communication.
C'est la directrice de la communication.
On sait tout
De la directrice de communication, nièce de Marine Le Pen, et qui, semble-t-il, a été à un certain moment proche de Jordan Bardella. Donc affaire familiale. C'est une affaire très familiale.
Oui, mais en tout cas, ce qui est...
Bon, et c'est un point à discuter, puisqu'il a été rapporté par la presse de gauche.
Oui, mais Durville n'a pas été démenti.
Ouais.
Et c'est vrai, on peut quand même comprendre que Marine Le Pen se dise « Je ne continue pas à travailler un jour de plus avec un type qui veut que je dégage contre ma propre volonté. » Enfin, objectivement, ça se comprend, une purge, je ne sais pas.
Comme en 98. Les purges font partie du jeu politique, voilà. Mais ça a un certain coût.
Ah bah ça a un coût, oui. Mais moi je me demande si le coût ne sera pas positif, au sens où peut-être que la plus grande partie de l'électorat peut se dire « Ok, elle ne rejoint pas le grand capital et je lui donne un peu plus confiance. » Et là aussi, d'après ce qu'on peut entendre dans les milieux patronaux, pour peu qu'on y ait une petite oreille qui passe, c'est qu'en gros, les gens, les gros patrons se disent de toute façon, on n'a personne d'autre qu'elle, donc il faut y aller.
Et puis on peut gagner un grand oral au MEDEF en évitant les purges. Par contre, on ne gagne pas une présidentielle sans l'électorat populaire.
Ouais.
Et en effet, si ça se traduit, parce que je ne sais pas si l'électeur de Marine Le Pen est au courant de cette affaire,
Mais
il y a une traduction politique, en tout cas d'une com' politique de cela, c'est jackpot pour Marine Le Pen.
Une réaction, Xavier Van Lier, d'Alexis Poulain, sur départ
de... C'est l'évidence que ça n'agite que les rédactions.
Ah oui, c'est ça.
Ah, nous, on frétille.
Ah oui. Non, mais disons que le timing était intéressant. Le matin, il annonce qu'il s'en va. Le soir, Marine Le Pen dit « Non, c'est moi qui l'ai dégagé ». Bon, ça anime un peu parce que le MEDEF, c'était gentil et poli. Là, ça remuscle un peu tout cela.
Oui, alors, on a quelques auditeurs. Richard De Cesse qui voulait parler par sa propre voix.
Absolument pas. Je ne suis qu'une timbale qui résonne.
Il n'est pas purgé de Radio Courtoisie, Richard De Cesse.
Pas encore.
Il ne souhaite pas que je parte, donc
c'est pas ce qu'il m'a dit ce matin.
Absolument pas. Mais je dirais à Pierre-Alexandre Bouclet les confidences de certaines personnes, et j'espère qu'il prendra les mesures qui s'imposent. L'État a une relation d'affaires extrêmement importante via les marchés publics avec les grandes entreprises, parce qu'elles sont fiables et sûres quand il s'agit de moyens de paiement. Le contentieux est un risque minimum entre les deux partenaires. Les choses se font naturellement et en toute confiance, puisqu'aujourd'hui, les contrôles sont ciblés. Voilà. Donc, effectivement, il y a un capitalisme de connivence. Les autres questions anticipent sur le reste du débat. Moi, j'ai surtout été fasciné par le fait que les patrons en fait ont écouté Marine Le Pen, que Marine Le Pen avait quand même des propositions intéressantes déjà en 2022, qu'elle n'a pas abandonnées, avec notamment son fonds d'investissement souverain.
Le fonds d'investissement souverain, ça n'a de sens que quand on a des excédents budgétaires, des excédents commerciaux.
Oui, mais
si on n'a pas d'excédents budgétaires et d'excédents commerciaux, un fonds d'investissement souverain, c'est rien d'autre qu'une parole en l'air.
On le finance comme l'État français se finance actuellement. Mais Sarah Knafo propose 130 milliards d'euros d'économies. Et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut à la fois relancer et avoir une politique d'austérité. Je veux dire, on n'est pas... ce qu'attendent les marchés, c'est surtout que la France témoigne du fait qu'elle est capable d'investir intelligemment. Parce que là, pour le moment, et Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure dressait la liste navrante de tout l'argent qui part et qui n'est pas investi. Est-ce qu'on a véritablement besoin de l'Agence française du développement? Non. Voilà.
Alors, pour revenir sur ce que disait Arthur de Vatrigan, je crois, tout à l'heure, comment vous expliquez, Jean-Yves Le Gallou, ou comment vous jugez, en tout cas, le fait que ni Nicolas Dupont-Aignan, qui le disait tout à l'heure, ni Sarah Knafo, ni David Linard, effectivement, qui ont quand même des points de vue sur l'économie, n'aient été invités?
Alors, je ne sais pas si David Linard et Sarah Knafo sont officiellement candidats. Sarah Knafo, officiellement, n'est pas candidate. David Linard, je ne sais pas.
Il est candidat à une primaire.
Ça peut, voilà, les candidats à une primaire, exact. Mais Sarah Knafo n'est pas candidate, elle le sera peut-être, mais elle ne l'est pas à l'heure qu'il est. Donc ça peut s'expliquer. Dupont-Aignan, oui, il est candidat.
Est-ce que la nièce de la directrice de la communication ne vous dit rien sur la candidature de Sarah Knafo? Il n'y a pas un petit bruit de couloir?
Non.
Elle sort un livre prochainement, Sarah Knafo.
Demain, elle le présente demain, oui, absolument, oui.
Bon, on a fini sur ça?
Oui.
Allez, on passe au plus croustillant de tout. Mais en fait, cela dit, c'est même pas croustillant. Il n'y a même plus besoin de thèse complotiste, puisqu'il nous décomplote nos théories. C'est le Grand Orient de France qui annonce un plan pour influencer la présidentielle. Et au lieu de nous laisser le dire tranquillement, ils le révèlent eux-mêmes.
Ça, et c'est ils vraiment... nous mangent le pain.
Ben, oui, la franc-maçonnerie, c'était mieux avant. Donc, c'est le grand maître du Grand Orient de France lui-même qui nous le dit. Il s'appelle Guillaume Trichard.
Ça, c'est joli.
Oui, ça se prête au calembour, voilà. C'est son deuxième mandat, il avait été déjà élu pour un an en 2023, et là il est réélu donc, et il annonce, comme je le disais, les ambitions de sa société secrète. Donc je le cite, « Face à la montée des populismes, notre obédience a un rôle historique à jouer ». Et alors, je le cite, « J'ai évidemment souhaité revenir donc, à la tête de la du Grand Orient de France, pour engager l'obédience dans l'action au service de nos principes, de nos valeurs, de notre attachement à la liberté, égalité, fraternité, blabla. Il a rappelé, donc, après son élection, quels étaient, donc je le cite à nouveau, quels étaient nos adversaires en France comme à l'international, et je les ai nommés les identitaristes.
Ouh
ouais. Merci. Ceux qui font la promotion, parfois déguisée, du racisme et du racialisme, et...
Là, mon avis, il est en train de parler de Mélenchon, donc j'étais plutôt d'accord.
Moi, je me suis senti visé, mais bon. Mais nous considérons...
Mélenchon qui est membre de son obédience.
Ah oui, c'est vrai, tiens, en plus, oui.
Ah, alors peut-être qu'il parlait d'autres gens, alors.
Oui.
C'est bizarre, parce qu'il n'y a que Mélenchon qui passe sa vie à remettre le racisme sur la table. Hein, et à parler d'une nouvelle France et multiethnique. Enfin, dire le seul racisme véritable dans la vie politique française, en tout cas dans les programmes qu'il propose, dans les propos qu'il tient,
c'est
Jean-Luc Mélenchon.
Oui, absolument. Nous considérons, dit-il, que ce qui rassemble les êtres humains est plus fort que ce qui les distingue. Ça, c'est une grande profondeur, je trouve.
J'ai vu ça sur Miss un France. PowerPoint avec un coucher de soleil.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup ému.
Faut faire des ponts plutôt que des murs, etc. Face à la montée des populismes, des extrémistes de droite comme de gauche, donc j'ai estimé que notre obédience avait un rôle historique à jouer. Et dans les mois qui viennent, je serai davantage à ma place en tant que grand maître. Donc ça, c'est mon cul sur la commode. Et donc, son programme, c'est, après la promotion de l'euthanasie, quand même, hein, puisqu'ils ont revendiqué être en tête, la lutte, mais une lutte féroce contre l'école libre. Et il annonce, le maître du Grand Orient de France, un livre blanc sur l'école de la République, avec des propositions nombreuses, où, en gros, il estime que, je le cite... Il faut quand même bien écouter, là je pense à Anne Coffinier, à nos amis de la Fondation pour l'école, etc., que les écoles privées hors contrat n'ont pas leur place dans la République. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même vachement gonflé.
C'est intéressant.
Parce que hors contrat, ça signifie qu'il n'y a pas de contrat. Et là...
on a regardé le même PowerPoint.
Les ponts, les murs. Avec la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pénalisation de la légitime défense de l'identité. Ça, c'est moi qui interprète, hein, légitime défense de l'identité. Mais lui, pénalisation de la défense de l'identité. Je le cite, « Les particularités de l'identité pour les pointer du doigt comme étant source de tous nos maux, ce ne sont d'ailleurs pas pour nous les opinions, la défense de l'identité, ni pour la République, ce sont des délits.
Bah, c'est le délit d'opinion, qui est, c'est l'extension de la loi Pleven-Guesso, en fait.
Voilà, alors, voilà, c'est l'essentiel, et donc il explique qu'il va s'investir activement auprès des candidats.
Bah, auprès d'un candidat, en fait. Parce que si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a fait sa rentrée politique sur l'école. Donc on a déjà les programmes sur l'école. Et donc le seul qui n'a pas trop parlé d'école, c'est Glucksmann, donc en gros le PS. Parce que Gabriel Attal, c'est autonomie à fond des établissements, et le privé, c'est pas un sujet. Édouard Philippe a surembrayé là-dessus également. Retailleau, on connaît sa position. Marine Le Pen, ça m'étonnerait qu'elle ouvre, elle réouvre une guerre privée-public. Et Mélenchon, bah, vu son électorat, je suis pas sûr que...
C'est pas son intérêt.
Non, c'est pas son intérêt. Donc, en gros, il reste plus de Glucksmann.
Alors, Arthur de Vatrigan, c'est pas son intérêt. Pourquoi ? Parce que nous, avec nos sous-entendus...
Disons que l'école coranique, bon, ça match assez bien avec leur contrat, même si c'est souvent déguisé en association sportive. Mais bon, comme les associations sportives sont un peu attaquées, il va falloir qu'ils rentrent dans le rang. Et l'école hors contrat offre une porte légale pour continuer les écoles coraniques. Donc je ne suis pas certain que l'électorat très islamique de Jean-Luc Mélenchon soit content qu'on autorise uniquement l'école républicaine, laïque et tout le team. Donc si vous regardez, il ne reste plus que Raphaël Glucksmann ou le candidat PS. Donc et voilà, ils vont faire campagne pour... aujourd'hui, Glucksmann, peut-être demain, oh, François Hollande.
C'est vrai que...
Non, pas Édouard Philippe. Édouard Philippe était très clair là-dessus.
Le Grand Orient qui fait campagne pour Glucksmann, on se dit que les francs-maçons ont perdu un peu de leur vista.
Alors, je pense qu'il y a
Xavier Van Lierde.
Je suis d'accord avec l'analyse d'Arthur, mais il y a probablement... Les méthodes du Grand Orient ne se limitent pas à soutenir ouvertement des candidats ou à les aider à rédiger des parties de leur programme, comme ils l'avaient d'ailleurs fait, effectivement, avec le PS du temps de Mitterrand. Ils sont beaucoup plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer des polémiques, de lancer des balles au décès, de créer de fausses revendications venant de la société civile, de faire monter en mayonnaise telle ou telle affaire pour petit à petit faire avancer le sujet. C'est la méthode qu'ils ont d'ailleurs utilisée pour la loi sur l'euthanasie et bien d'autres. Donc je me méfierais de ces gens comme de la peste plutôt que de me dire, bah, c'est pas grave, leur candidat c'est Glucksmann, il n'a aucune chance, c'est réglé. Le Grand Orient de France, en réalité, c'est le véritable visage des fameuses ingérences intérieures dont parlait l'autre, puisque plutôt que d'agir à visage découvert, ils placent leur pion, ils tissent leur toile, et tout d'un coup, lorsqu'on réagit, on se rend compte qu'il est déjà trop tard. Donc méfiance, méfiance, méfiance. S'ils se mettent en tête de vouloir se payer l'école hors contrat aussi, certainement pour ressouder leurs troupes, je prendrai cette menace extrêmement au sérieux.
Jean-Yves Le Gallois, Alexis Poulain, juste après. Ils s'inscrivent clairement dans la logique qui est celle du pouvoir répressif actuel sur l'ordre public immatériel. L'ordre public immatériel, vous faites une réunion, vous organisez un colloque, vous faites une manifestation, on peut l'interdire désormais. Le Conseil d'État a validé une circulaire de M. Darmanin sur ce point. À partir du moment où on considère que les idées qui peuvent être exprimées sont en dehors du champ de l'ordre républicain. Et à partir de là, on crée le délit d'opinion ou le délit d'opinion politique. Le délit d'opinion. Et la déclaration du Grand Orient, elle s'inscrit dans le prolongement de cette démarche. Ça a déjà commencé. Mais ils veulent aller plus loin, ils veulent consolider cela. Et là-dessus, ils auront l'oreille de beaucoup de candidats et pas seulement de monsieur Glucksmann.
Alexis Poulain.
Oui, ça fait partie de l'atmosphère de censure permanente hein, qui est en train d'étouffer le pays, tout simplement, et qui malheureusement est totalement validée par les différents candidats politiques, quasiment, qui sont prêts à qui attaquer le réseau social, qui empêcher certaines opinions, les interdire. Loi Guesso, effectivement, c'est le début, en fait, de cette spirale qui va aller très loin, puisque ça pourrait aller jusqu'à l'interdiction du droit d'association. Et donc là, ce serait un problème pour le Grand Orient, en l'occurrence. Mais si on suit la logique...
Non, parce que le Grand Orient est républicain, donc...
Eux, ils ont le droit.
Ils ont le droit.
Mais, après, la question, c'est les lois de la République. République étant de plus en plus limitante et de plus en plus inspirée de censure, ça risque de poser problème, y compris au Grand Orient, qui vit quand même des moments de crise interne. Hein. Je crois que Mavezoli vient de sortir un bouquin là-dessus, en disant le Grand Orient a perdu la boussole ou un truc du genre. Et Thomas Guénolé, hein, quand même.
Qui a été suspendu. Guénolé,
qui a été suspendu, absolument.
De la franc-maçonnerie.
Je l'ai demain pour en parler de son débat avec Soral qu'il a eu, et puis aussi pour parler du Grand Orient avec lui, savoir un peu ce qui se passe là-bas.
Ouais. Ah ben, les grands esprits se rencontrent. Mais alors, vous parliez de la loi Guesso, l'influence de la maçonnerie commence quand même bien avant, et notamment avec les lois sur la laïcité, les lois sur la séparation de l'Église et de l'État, et cette férocité qu'ils ont eue contre les écoles catholiques, et qui ne s'arrête jamais, en fait. Et là, on a toujours tendance, et moi le premier, à sous-estimer de nos jours le poids de la franc-maçonnerie, en se disant les plus gros lobbies désormais, ça reste vrai, ce sont les LGBT, ce sont les wokistes en tout genre qui font la convergence des luttes, mais la franc-maçonnerie qui a l'air d'être un bon vieux lobby à la papa, un peu désuet, suranné, reste extrêmement influent, et on l'a vu dans leur dernier combat, qui est quand même la loi sur l'euthanasie. On parlait des assurances vie tout à l'heure, des assurances, c'est quand même directement corrélé, et ils ont eu un rôle extrêmement actif dans la loi pour l'euthanasie, et là je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer, notamment dans cette capacité d'influence dont parlait Xavier Van Lierre.
Et il y a la loi Berger qui va être votée, enfin il y a un projet de loi Berger qui est une extension de la loi Pleven et de la loi Guesso, qui va être en débat au mois d'octobre. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir qui la vote et qui la combat.
Et rappelez-vous ce que nous avait raconté Anne Coffigny en juillet sur le prix Tanet, qui avait exclu des élèves qui venaient du hors contrat.
Absolument.
Et oui, là, on était clairement sur une offensive maçonne.
Oui, tout à fait. Alors, il s'est passé quelque chose de tout à fait fantastique en Angleterre, et c'est complètement concomitant à cette déclaration. Alors, c'est rigolo, donc je l'ai inclus dans le programme. C'est qu'en à Londres, la police londonienne exige de ses agents qu'ils déclarent désormais leur appartenance à la franc-maçonnerie. Et c'est une décision qui n'est pas du tout une décision fascistoïde et d'extrême droite, mais une décision qui découle d'informations qui ont été révélées par la Metropolitan Police, donc la police londonienne, qui concerne une affaire de corruption tout à fait récente où plusieurs agents impliqués faisaient partie de la franc-maçonnerie. Et le pire, c'est une autre affaire qui a été révélée par le Guardian. Alors le Guardian, c'est l'équivalent du Monde, donc le journal de gauche,
de
référence soi-disant, qui a quand même révélé, donc si le Guardian, donc le Monde anglais, le dit, c'est que c'est quand même suffisamment solide, une corruption récente de plusieurs agents dans l'affaire d'un meurtre d'un détective privé qui s'appelle Daniel Morgan, qui a été assassiné à coups de hache près d'un pub londonien. C'est quand même pas anodin. Et un rapport d'enquête, donc c'est une affaire qui remonte à plusieurs années, mais le rapport d'enquête avait fait état, donc je cite le rapport, enfin je cite plutôt le Guardian pour être honnête, d'une forme de corruption institutionnelle. Et le rapport, donc d'après le Guardian, notait que l'enquêteur dépêché sur l'affaire était un franc-maçon qui avait plus tard travaillé pour le compte du principal suspect du meurtre, ce qui est quand même assez croquignolé, et que 10 policiers, 10 enquêteurs qui avaient travaillé sur cette enquête qui n'avait pas abouti parce qu'on n'a jamais retrouvé le meurtrier, étaient des francs-maçons. Alors, même le Guardian trouve ça un peu bizarre.
Alors,
et voilà, donc là, il faut c'est une affaire anglaise, mais est-ce que vous pensez qu'il est peut-être temps aussi de
la
se battre contre des sociétés secrètes qui peuvent quand même avoir un impact extrêmement dangereux
sur les déclarations d'intérêt. Dans les déclarations d'intérêt, il pourrait y avoir l'appartenance à
une secte ou à une société secrète.
Et d'ailleurs, en Angleterre, les députés anglais, les parlementaires anglais, ont obligation de faire savoir s'ils sont ou non francs-maçons. Alors en Angleterre, il y a une franc-maçonnerie qui est peut-être un peu plus droitière, enfin, je pense pas qu'elle ait la même ligne, exactement la même ligne idéologique que la nôtre, mais les députés anglais...
Ils sont très en avance sur beaucoup de choses, les Anglais.
oui, c'est sûr. Les députés anglais sont tenus de le faire savoir.
Mais il y a surtout une exigence, c'est que les francs-maçons prêtent un serment justement de fraternité et d'aide active. Autrement dit, si vous êtes franc-maçon et que vous avez un juge d'instruction ou un président de tribunal qui est franc-maçon, vous savez a priori que la décision de justice va être orientée en votre faveur, au nom justement de ce pacte fraternel. Et donc celui qui n'est pas franc-maçon a un défaut d'égalité, valeur auquel le Grand Orient, à laquelle le Grand Orient est très attaché.
Oui.
Alors, vous rappelez l'affaire Arthur de la loge Athanor des Hauts-de-Seine,
pilote de rallye. Alors je ne sais plus très bien, mais il y avait un pilote de rallye assez connu
qui s'est fait assassiner, et il y a eu une énorme enquête tentaculaire qui a révélé que, alors il y a eu ce pilote de rallye, mais il y a eu un chef d'entreprise, il y a eu une syndicaliste, il y a eu une coach sportive qui ont été menacées, passées à tabac, l'ont tué. Et cette enquête a montré qu'en fait, il s'agissait de frères maçons de la loge Athanor, une loge des Hauts-de-Seine, qui avaient commandité auprès de Barbouze, de la DGSE ou d'ex de la DGSE, soit de taper des gens pour leur escroquer des choses, soit de carrément tuer comme ce pilote de rallye, et que tout ça avait été monté dans cette loge maçonnique.
Oui, absolument. Et donc, c'est pas seulement des petits lieux où on se réunit pour manger un tablier de sapeur et faire la fête.
Pour contrôler l'antenne,
vous avez en l'air
des ennuis.
Oui, moi je viens de rentrer. L'antenne
a été blanchie. Voilà. Mais ce sont des membres de cette loge qui ont été mis en cause.
Oui, les membres de la loge, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, ben la loge en tant que telle, oui. En tant que personne morale, elle n'a pas commandité les meurtres.
L'enquête a réussi à établir que ça s'était fait en marge des réunions de la loge et par juste quelques individus sans que les autorités de la loge soient bien sûr mises au courant. Voilà.
Nous voilà rassurés.
Néanmoins, tout ça est assez peu ragoûtant.
Oui. Alors, la question quand même, puisque la franc-maçonnerie veut lutter contre l'extrême droite, est-ce que il ne s'agirait pas... Là encore,
et l'extrême gauche.
Et l'extrême gauche aussi, oui.
Donc c'est-à-dire contre Mélenchon et contre Marine Le Pen, à savoir ceux qui sont en tête dans les sondages aujourd'hui.
En plus. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps également qu'on demande des comptes, nous, à la maçonnerie et aux francs-maçons? Et voilà, est-ce que cet exemple anglais vous inspire quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'adapter à la France et...
On pourrait demander de la transparence.
Un peu.
Au nom de la lutte contre l'ingérence intérieure. Oui. Étant donné que Laurent Nunez l'a réaffirmé qu'ils allaient lutter contre les ingérences aussi intérieures, on peut très bien demander une transparence pour nous rassurer, nous dire que non, il n'y a pas d'ingérence intérieure de la part de la franc-maçonnerie, en tout cas du Grand Orient.
Oui. Alexis Poulain, Xavier Van Lier, un mot sur cette...
On pourrait demander aux membres du conseil du CESE, du conseil économique, social et environnemental, combien sont francs-maçons.
Il est taquin.
Ou un rapport sur la franc-maçonnerie.
Déjà, le
conseil constitué aussi, on peut demander.
Rien que le ministère de l'Intérieur. C'est
la police.
Le ministère de l'Intérieur, non, je pense qu'on a plus de chances d'avoir des tests de drogue rendus publics avant de savoir qui fait partie de quelle obédience.
Alors on peut demander à GNLF qui sont les membres du Grand Orient, et puis inversement.
Et inversement,
oui. Oui, alors,
ça marche aussi.
Au ministère de l'Intérieur, l'alternance, c'est quand les gens d'une loge remplacent les gens d'une autre loge. Donc il y a de l'alternance quand même. Il y a une certaine diversité.
Il y a un pluralisme.
Il y a un pluralisme, oui, absolument.
Alors, pour expliquer peut-être aux auditeurs de Radio Courtoisie...
Il y a aussi des non-maçons, quand même. Mais bon.
Oui. Pour expliquer donc à ceux qui ne connaîtraient pas les arcanes de cette société secrète, donc comment ils se reconnaissent? Parce que si c'est secret, ils ne sont pas supposés se reconnaître. En fait, ils ont des petits codes, notamment quand ils se serrent la main, ils se gratouillent un petit peu le poignet. Il y a aussi des signatures, les signatures à trois points, soit alignées, soit dispersées dans la signature. Et j'ai vérifié moi-même que ça fonctionnait. Parce que pendant un temps, je voulais voir si c'était je voulais voir si c'était sérieux, pas sérieux, cette histoire de trois points. Et à plusieurs reprises, donc je mettais des signatures à trois points et j'ai vu que oui, ça pouvait être tout à fait intéressant, quoi. Et on était reconnus, en tout cas. C'était très, très, très intéressant. Et ils ont des gestes aussi. Ils font un toit au-dessus de la tête avec les mains
pour
signifier qu'ils ont besoin d'aide. Et ça, notamment dans les procès.
Au Parlement européen. Quand vous demandez la parole, quand vous voulez demander la parole, vous faites
le triangle
au-dessus de la tête, c'est-à-dire c'est l'appel à l'aide, voilà, et c'est tout le monde le fait. Hein.
Ah oui.
Ah oui, absolument. Alors là, moi j'ai vu Jean-Marie Le Pen le faire. Ah oui, c'était le code.
C'est dingue.
Je pense pas que Jean-Marie Le Pen était franc-maçon.
Ça m'étonnerait. Mais voilà, ça avait infusé. Ouais. Donc
voilà.
Alors, il nous reste quelques minutes. Il faut quand même qu'on parque. Qu'on parle.
Attention là, maîtrisons l'antenne.
Les parcs à thème saoudiens, là aussi, c'est quand même assez phénoménal. Donc, on a vu Mohamed Ben Salman venir à Paris, où il a été accueilli en grande pompe par Emmanuel Macron. Le monsieur en question étant quand même soupçonné, même si c'est probablement... ce n'est peut-être pas vrai, mais être le commanditaire de l'assassinat d'un journaliste turc de mémoire, je crois, qui a été assassiné...
En tout cas en Turquie, oui.
En Turquie.
Donc, dans son ambassade.
Attiré dans l'ambassade saoudienne, manifestement drogué et découpé à la tronçonneuse, quand même.
Un fan de Scarface.
Un monsieur Khashoggi.
Monsieur Khashoggi, oui. Et ce monsieur a été accueilli en grande pompe donc, par Emmanuel Macron. Et l'Arabie saoudite annonce un investissement de 6 milliards de dollars, et pas d'euros bizarrement, dans la création de 3 parcs à thème à Paris, dont un consacré donc, au personnage de manga Dragon Ball Z, qui donnera peut-être des souvenirs à ceux qui avaient 10 ans dans les années 90.
Mais Macron avait 11 ans quand Dragon Ball est apparu à la télé française.
Ah oui, bah vous voyez là.
Ça avait quel âge ? Les MBS, il avait quel âge ? C'est là on a quand même une diplomatie de chambre d'adolescent, là, c'est quand même assez intéressant. Quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Arabie saoudite ne fait pas ça pour le plaisir de faire mumuse avec Dragon Ball Z, mais ils annoncent, là encore une fois, le complotisme, c'était vraiment tellement mieux avant quand les gens ne disaient pas tout. Oui, là, ils disent qu'ils attendent un soutien diplomatique actif de la France pour l'Arabie saoudite. Donc c'est en gros une pure opération d'influence avoué, tranquillou. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ces parcs à thème. Richard de Cesse, je crois, avait un avis là aussi.
Nicolas de Villiers a dit à peu près tout ce qu'il avait à dire. C'est-à-dire, ce qui est absolument aberrant, c'est d'une part le fait d'aller chercher quelque chose qui n'est absolument pas dans notre culture et qui, en plus, est un sous-produit japonais d'une culture chinoise. C'est-à-dire, si ceux qui ont lu Le Pèlerinage vers l'Ouest avec le singe Swan Ying Cho dans l'excellente traduction qui était parue dans les années 60-70 en France, le Si Yuki essaye de reconnaître cette merde qu'est Dragon Ball et donc de voir comment est-ce qu'on a adultéré une œuvre chinoise remarquable, voilà, Dragon Ball, c'est absolument parfait. Et il y a chez Emmanuel Macron l'idée, en fait, de détruire une fois un peu plus la culture française, avec d'ailleurs des discours des aménageurs qui sont absolument stupéfiantes, où ils expliquent qu'il n'y a rien autour de Paris. Il n'y a rien à l'ouest. Il y a Versailles, par exemple. Oui. Soyons fous. Je veux dire, il y a 2 ou 3 trucs. Versailles, Chantilly. Il y a déjà un programme de loisirs périurbains royal, en fait. Hein, ça existe. Et il y a déjà des millions de gens qui vont visiter des choses où on leur raconte autre chose que Dragon Ball, cet adolescent orgueilleux.
Il y avait un petit parc qui ne marche pas très bien, mais qui était sympathique d'origine. C'était la France miniature. Un petit parc, c'est évidemment pas l'échelle de Disney ou du Puy du Fou.
En même temps, si on leur donnait des subventions gouvernementales démentielles...
Peut-être même pas des subventions
gouvernementales... La France miniature va repartir.
Oui, j'espère, je pense. J'ai entendu qu'il y avait des projets.
Ah bah, c'est eu un rachat. Quelqu'un à la tête qui fait ça très bien, qui a monté de A à Z le Puy du Fou en Espagne, qui est un énorme carton. Donc c'est parti pour lancer quelque chose d'intéressant.
Mais il faut surtout revenir sur MBS, parce que MBS nous dit, tiens, je vais vous donner 6 milliards de pétrodollars et vous allez faire un parc à thème qui, de toute façon, ne verra pas le jour avant 2030-2032, c'est-à-dire au moment où Emmanuel Macron se représente pour redevenir président de la République. Et c'est quand même celui qui nous avait expliqué qu'il allait construire une ville de 270 km de long, qui est la ville Neom, qui est complètement dans les sables, tout point de vue. Je veux dire, autrement dit, les investissements d'Arabie Saoudite sont les 3/4 du temps de la poudre aux yeux. Et d'ailleurs, on ne sait pas quelles sont les conditions que le gouvernement français va accepter de donner, en fait, on ne donne pas une condition. On ne sait pas la manière dont le gouvernement français va négocier les contreparties de ces 6 milliards de dollars. Si ça se trouve, il va y avoir, comme pour le Qatar avec Nicolas Sarkozy, des exemptions d'impôts. On ne sait absolument pas quelle est la rentabilité du projet. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Macron le premier sur les 22 000 emplois créés et les 80 000 emplois indirects. Mais c'est une chimère complète.
Alexis Poulain.
Oui, oui, c'est totalement une chimère, d'autant que les droits n'ont pas été clearés, n'ont pas été achetés encore hein, sur Dragon Ball Z, apparemment, par les ayants droit japonais. Et moi, j'y vois une tactique d'achat de président. Enfin, ça ressemble à du bakchich cadeau. Et si ça s'ouvre en 2032, et j'imagine Emmanuel Macron se représentant, j'ai eu cette vision. Peut-être qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron se seront séparés d'ici là. On ne sait pas hein, ce que la vie réserve. Et je le vois déambuler dans ce nouveau parc et dire avec machin c'est du sérieux je sais pas avec qui
en train d'essayer de faire des boules de feu avec ses bras musclés
avec Carla à Disney quoi donc ça peut être formidable. Non mais on crée un futur incroyable avec ces gens là hein, qui systématiquement investissent à côté quoi de où il faudrait investir.
Ah oui, le point. Oui. Alors, Arthur de Vatrigan, puis Xavier Vanier.
Après les ingérences intérieures de la franc-maçonnerie, là, on a un exemple d'ingérence extérieure qui est quand même avérée. Donc, c'est quand même.
Mais à ciel ouvert, surtout.
Et puis, double ingérence, parce qu'on a donc l'Arabie Saoudite qui va financer du soft power pourri, moitié japonais, moitié chinois. C'est quand même assez fou. Alors, après, ça montre surtout que. Alors, la ville de Neom, peut-être que la ville de Neom est encore sous le sable, en tout cas, ils ont des terrains de foot et ils investissent massivement sur des joueurs de foot jeunes, très chers. Hein. Donc, ça se développe quand même et ça vend quand même. Mais ce qui. Pour revenir sur cette affaire-là, ça montre surtout que la France, la seule destinée de la France du point de vue de Macron, mais pas que du point de vue de Macron, du point de vue de beaucoup d'autres, c'est que la France est un pays qui est purement destiné à être un pays touristique, et pas que français, à accueillir le tourisme ouais. aussi d'autres pays. C'est surtout ça, quoi, parce qu'on parle d'investissement, et quand bien même les investissements seraient réels, et quand bien même il y aurait 20 000 emplois et 80 000 indirects, ça serait de l'investissement touristique. Ce qui est quand même assez triste, c'est-à-dire qu'on devient une ville musée, mais pas que du musée français. Quoi.
Xavier Van Leerde.
C'est exactement ce que je voulais dire. Dans la mondialisation, dans la dernière phase de la mondialisation, on parlait de mondialisation, ça impliquait une division internationale du travail. Eh bien, on voit le rôle qui nous est dévolu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et pour conclure le tout, c'était assez symbolique de voir le président de la République, le premier personnage de l'État, se fendre d'une déclaration pour annoncer l'ouverture d'un parc à thème. Ça dit quand même quelque chose du...
Et puis quel thème hein pardon.
De là où on en est, et puis quel thème, de fait, c'est piquant. Mais au même moment, à Pékin, il y avait les Jeux Olympiques des robots humanoïdes. Ouais. Vous voyez, c'est...
Ouais, ouais.
On ne vit pas tout à fait dans le même monde sur le capital. On a un gros complexe de supériorité qu'il va falloir perdre pour regarder la réalité en face.
Ah,
pendant
oui,
que
oui.
nous... Pendant que nous, notre président annonçait l'ouverture d'un parc à thème qui est quand même fondé par ailleurs sur la régression et l'infantilisme et qui aura un public non pas probablement de jeunes, parce que Dragon Ball Z, c'est l'histoire, effectivement, c'était des dessins animés regardés dans les années 80, donc par des gens qui aujourd'hui vers 40 ans, donc ils vont se replonger dans leur enfance plutôt que d'affronter les défis de demain. En revanche, pour être présent sur les véritables enjeux, l'IA, la robotique, etc., il n'y a plus personne, on est dans les choux. Donc voilà, il faut se souvenir quand même de ce président qui parlait de Startup Nation, qui est très content de tenir des salons de choux France. Eh bien, à l'issue de ces choses-là, qu'est-ce qu'on a ? Un parc à thème pour enfants attardés. Au secours.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, je voulais simplement faire une remarque par rapport à la diplomatie. Macron a réussi une chose extraordinaire quand il a reconnu... La souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, il s'est brouillé avec l'Algérie. Là, il fait un pas du côté de l'Arabie Saoudite. Et il va peut-être nous brouiller avec le Qatar au passage, mais on verra. Oh
bah, tout est possible. Mais c'est
tant qu'il nous aide continuer à acheter des Rafales.
Oui. Oui,
ah,
oui.
L'Arabie
oui.
Saoudite, c'est notre premier acheteur hein, sur le complexe oui. militaro-industriel. Donc il y a aussi ça derrière. Il n'y a pas que je vous offre un terrain pour payer Dragon Ball Z. Non, il y a aussi. Confirmer notre partenariat militaire.
Oui,
il faut bien qu'on vende nos armes.
Mais aussi pas diplomatique, parce qu'ils expliquent vraiment qu'ils attendent un soutien actif, notamment dans les conflits régionaux.
Ah ben c'est le principe, c'est on oui. vous achète et en échange vous nous soutenez. Hein.
Oui.
Oui, bah oui. Ils ont l'argent, nous on n'en a oui, pas, oui. on prend. Et
mais on deal. C'est ce qui s'appelle se faire acheter.
Et on n'a pas réussi à flécher ces milliards vers autre chose que vers un parc Dragon Ball Z, c'est quand même mal barré.
C'est vrai que ça c'est un peu humiliant, mais en même temps ça aurait été ennuyeux que ça flèche les châteaux de Versailles, parce que moi que l'Arabie Saoudite finance le château de Versailles, ça m'a ennuyé aussi.
C'est vrai
oui.
Alors, il nous reste.
Cela dit, vous savez, ça vient du bouquin de Fourquet qui parle beaucoup de déclin de la France productive et autres. Il y a des chapitres entiers consacrés à la façon dont le tourisme et l'industrie du récréatif devient prépondérante et même transforme l'aménagement du territoire. Il y a quand même quelques éléments un peu navrants qu'il mettait en avant, notamment sur la Touraine, cher à Pierre-Alexandre. Eh bien, le zoo de Beauval fait plus de visiteurs annuels que le château de Chambord. Voilà.
Mais il n'y a pas de panda dans le château de Chambord. Il y a un magnifique panda au zoo de Beauval.
Mais les pandas, vous ne les voyez pas.
Si, je l'ai vu, le panda au zoo de Beauval.
Ah, il est allé au zoo de Beauval.
Ah oui, monsieur.
Moi aussi,
j'ai même vu une grosse girafe.
Je suis allé au zoo de Beauval avec des petits-enfants, et franchement, je ne le recommande pas, parce que c'est un encombrement. Franchement, c'est plutôt décevant.
J'ai un bon souvenir.
Ah bon.
Richard moi, je vais au zoo de la Flèche. Il n'y a pas de panda, mais c'est très bien.
Alors, ce qui est très bien aussi, il nous reste peu de temps.
De débat.
C'est Politique Magazine.
Il nous reste 8 secondes.
Ah non, c'est pas vrai. Secondes, là,
mais Politique Magazine, c'est vraiment très bien.
Mais il est 26. Bon, et ben écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Politique Magazine.
Merci.
Merci, chers auditeurs. Voilà, on ne voit pas le temps passer. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant.